Je ne vais pas dire bonjour parce qu'on s'est déjà vu. Vous savez que le Seigneur est bon? Parce que je me disais, mais comment je vais introduire ce message? Sophie vient de le faire. Quelles sont nos sources? Qu'est-ce qu'on écoute? Et c'est vrai que on est dans un monde où malheureusement des voix dilettantes, mais qui se rapprochent énormément de la parole de Dieu, nous emmène des fois dans des chemins incroyables. Et quelles sont nos sources ce matin? Est-ce que toutes mes sources sont en l'Éternel? Et c'est un verset qu'on trouve en psaume 87, verset 7, le dernier verset. C'est en fin de compte un cantique qui dit « Ceux qui chantent et qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi ». Et c'est un cantique. C'est un cantique des fils de Corée. Ils sont venus pour adorer l'Éternel. On peut s'imaginer qu'ils ont dû faire un déplacement à pied d'une longue distance. Et dans la présence, ils sont dans la présence de Dieu. Et ils s'aperçoivent, alors qu'ils sont dans l'adoration, que toutes leurs sources sont en Dieu. Il n'y a rien d'autre que l'Éternel. Ils vont puiser tout ce qu'ils peuvent dans l'Éternel. Et ça doit être une réalité pour nous ce matin. Jésus a osé dire « Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. » Ne vous inquiétez de rien. On a un Père qui est bien plus riche que tout ce que le monde peut nous apporter. Parce que quand on regarde le monde et quand on lit la Bible, on s'aperçoit que le message de la parole de Dieu ne nous amène qu'à du bien. Les messages du monde ne nous amènent qu'à la chute, qu'à la perversité, qu'à nous éloigner de l'Éternel. Alors ce matin, la question qu'on doit se poser, où sont mes sources? Où vais-je puiser? Et l'Éternel répond à tous nos besoins, spirituels, intellectuels, affectifs, physiques, il répond. Et il y a Jésus qui s'est attardé à un moment donné parce qu'il voyait qu'il y a un truc qui n'allait pas. Il disait en chapitre 6, Matthieu chapitre 6, il dit « Regardez les oiseaux du ciel ». En fin de compte, ils ne s'occupent même pas de leur nourriture. Ils ne s'occupent même pas de leur avenir. Je vous le dis de façon littérale. Dieu leur donne. Dieu leur donne tout. Ils ont de quoi se nourrir chaque jour de leur vie, parce que c'est l'Éternel qui pourvoit. Parce que Dieu pense à eux. Et Jésus leur dit, mais regardez aussi les lys. Regardez les lys. Personne n'est là pour les arroser. Personne n'est là pour leur mettre de l'engrais. C'est Dieu lui-même qui fertilise le sol. C'est Dieu lui-même qui les arrose et qui leur donne la pluie en temps voulu. Et Jésus affirme une vérité qu'on oublie trop souvent. Et peut-être qu'on ne se rappelle même pas. C'est que chacun d'entre nous, on a une valeur immense aux yeux de l'Éternel. Immense. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Voilà ce que dit Jésus. Ne valez-vous pas mieux beaucoup plus qu'eux? Beaucoup plus que ces oiseaux à qui Dieu donne tout? Beaucoup plus que ces lys à qui Dieu donne tout? Vous valez beaucoup mieux Combien de fois on l'oublie. Et Jésus continue en affirmant, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait, lui. Alors comment on pourrait se dire, mais comment Dieu ne pourvoirait-il pas nos biens, à nos besoins? Il y met quand même une condition. Il y a une condition. Parce que Jésus va conclure ce discours en disant, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Quelles sont nos sources ce matin? Où vais-je puiser? On discutait avec Arlette cette semaine du fait de garder les yeux sur l'Éternel. Beaucoup tombent, beaucoup chutent, beaucoup sont malades, je veux dire de façon dépressive, parce qu'ils commencent à regarder leur nombril. Parce que quand on regarde son nombril, on baisse la tête. Et toutes les choses du passé, ben, elles passent au-dessus de notre tête et elles se mettent devant nous. Si vous levez la tête et vous regardez Dieu, les choses du passé ne peuvent pas revenir. Et vous êtes victorieux. C'est la façon de puiser les sources en l'Éternel. Levez la tête. Je termine cette prédication en citant le dernier verset du psaume 110. Je peux même y aller. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Psaume 110, verset 7. J'ai eu une discussion avec quelqu'un la semaine dernière au téléphone, qui a duré très longtemps. Et je lui ai dit, c'est parce que tu ne vas pas au milieu du torrent. Tu es sur le bord. Ah oui, bah tu regardes, tu baisses la tête et tu regardes le torrent et tu te plains. Et tu te plains parce que l'Éternel n'agit pas. Mais comment l'Éternel peut agir si je ne me mets pas au milieu du torrent? Je vous l'ai déjà dit, David est allé au milieu du torrent pour aller chercher ses cinq pierres. Et ce verset dit, mets-toi au milieu du torrent et tu relèves la tête. Quand on dit relever la tête, ça veut dire relever la tête avec la victoire. La victoire sur toute chose. Si mes sources sont étrangères à celles de l'Éternel, je vais baisser la tête. Si je prends des sources du monde, si je prends des sources qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, je baisserai la tête. Parce que tout va m'envahir. C'est ce que je disais à ce frère. Mais je lui disais, tu as constamment la tête baissée. Et gloire à Dieu, il relève la tête depuis peu. Et il voit l'Éternel agir dans sa vie. Comment pensez-vous que Moïse parler bouche à bouche avec Dieu, c'est parce qu'il avait constamment la tête et les bras levés vers l'Éternel. Ses sources étaient l'Éternel lui-même. C'est pas la religiosité, c'est pas le petit chapitre de la parole de Dieu que je lis qui va faire que ma vie va changer. C'est Seigneur. Il n'y a que toi aujourd'hui qui puisse agir. On a un Père céleste qui est extrêmement attentionné. Je vous ai dit ce matin, il est même jaloux de ce qu'il nous donne. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Si un mari n'est pas jaloux parce que des hommes tournent autour de son épouse, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question réellement d'amour. Je ne suis pas en train de vous parler d'une jalousie. Non, je suis en train de vous parler de la même jalousie que l'Éternel. C'est parce que l'Éternel nous aime qu'il est jaloux. Imaginez comment il doit être lorsqu'on s'en va vers d'autres dieux. Le téléphone, l'ordinateur, la télé, le bon bouquin qu'on a trouvé. Mais je fais tout pour toi. Quand tu m'appelles au secours, je suis là, je cours. Et regarde ce que tu fais de ce que je te donne. Et Jésus nous dit, adresse-toi au Père de cette façon. Comment vous devez prier en Matthieu chapitre 6, verset 9. Notre Père qui es aux cieux. Il ne dit pas notre Père qui est sur terre. Il dit notre Père qui es aux cieux. On relève la tête quand on dit qui es aux cieux. On doit s'adresser à l'Éternel comme un petit enfant. Comme un petit enfant. Constamment. Ben, Père, ça ne va pas ce matin. Il y a ça qui ne va pas. Vous imaginez, vous avez un gamin. Vous êtes là, vous êtes son père, vous êtes sa mère. Puis le gamin va voir le voisin, il dit, ben écoute, j'ai une question à te poser, est-ce que ceci à l'école, machin. Comment vous allez réagir? Vous allez dire, mais attends, je suis ton père. Comment ça se fait que tu vas demander au voisin? Mais est-ce qu'on ne l'a pas déjà fait avec l'Éternel? Est-ce qu'on n'a jamais eu dans notre vie cet agissement? Et puis on va se tourner vers d'autres sources qui vont nous donner un autre message. Et bien ça va nous emmener encore plus loin dans la bêtise, plus loin dans les ennuis. Alors qu'il suffit simplement de lever la tête et de dire Seigneur, c'est à toi maintenant d'agir. Vous imaginez, je vous ai dit la semaine dernière que Moïse, il est allé dire à l'Éternel, mais attends, repens-toi de ce que tu as fait voulu faire mourir ton peuple. Il dit ça à l'Éternel. Vous ne trouvez pas que c'est du culot? Mais pourquoi il osait le dire? Parce qu'il avait cette intimité avec Dieu. Parce que ses sources étaient l'Éternel lui-même, il n'y en avait aucune autre. Il pouvait se permettre de dire à l'Éternel. Et ce qui est incroyable, comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est que l'Éternel s'est repenti. Alors qu'il était prêt à bazarder son peuple, c'est-à-dire couper, faire mourir tout son peuple et recommencer une nouvelle génération avec Moïse. C'est-à-dire tout ce qu'il avait dit à Abraham, il coupait. Moïse lui dit, mais attends, tu ne peux pas revenir sur ce que tu as dit. Il faut te repentir de ce que tu as dit. Comment on peut en arriver là? On doit concevoir dans notre vie que toutes nos sources sont en l'Éternel. Toutes nos sources, il n'y a rien d'autre. Si on commence à aller voir à droite et à gauche, c'est ce qui a été dit ce matin. On va entendre les petites voix qui vont nous empêcher d'aller en haut de la montagne. Et puis on va se retrouver ailleurs. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi aller chercher ailleurs nos sources? Pourquoi? On doit partager notre cœur avec l'Éternel. On doit. C'est pas il faudrait, c'est on doit. Il connaît nos problèmes. Est-ce que vous pensez un seul instant que Dieu ne connaît pas notre problème? Vous l'avez jamais entendu? Ben, j'attends qu'il me le demande. Je suis prêt à l'aider, mais j'attends qu'il me le demande. Il y a des êtres humains qui vous sortent ça. Il suffit simplement qu'ils viennent me voir, je vais l'aider. Bien sûr, la personne qui dit ça, c'est parce qu'elle est fière, elle a de l'orgueil. Mais l'Éternel dit, mais Mon enfant, j'attends simplement que tu me le demandes. Demande-le-moi. Pourquoi Jésus, avant de faire un miracle, il dit, mais dis-moi ce que tu veux que je te fasse. Attendez, il avait un gars avec la main sèche, il avait un paralytique, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse en fin de compte? Est-ce que vous croyez sincèrement que Jésus ne savait pas qu'il devait faire marcher, qu'il devait guérir de la main sèche? Mais il attendait simplement que la personne lui dise, ben écoute, guéris-moi. Guéris-moi. Et aussitôt, comme dit la parole, il fut guéri. Encore une fois, où sont nos sources? On a des priorités qui sont incontournables. Il y a Paul qui fait une recommandation. En fait, quand il dit à Timothée d'aller dire ça à les lecteurs, à ceux qui vont lire la lettre qu'il va donner. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur. » 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 3. Voilà. Voilà. Demandez. J'attends qu'il me le demande. J'attends qu'il verbalise. Il y a des gens qui s'étonnent que rien n'avance dans leur vie. Ils n'ont aucune discussion avec l'Éternel. Aucune. Eh bien oui, mais l'Éternel ne m'écoute pas. Et encore faut-il que tu parles. La prière et l'action de grâce doivent être le commencement de toute chose. Je vous ai dit ce matin, la première chose qu'on fait en se levant, c'est quoi ? On allume la radio, on allume la télé, on allume son portable, on regarde si on a eu des messages cette nuit de nos amis qui sont en train de dormir. Je vois que beaucoup de gens rient. Mais quand on regarde le monde fonctionne comme ça. Est-ce que moi, le matin, je me réveille et je dis « Merci Seigneur, parce que tu m'as gardé cette nuit. Merci Seigneur, parce que je peux me tourner et me lever. » Est-ce que je le dis? Jésus affirme en Jean 4, 23, « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. C'est pas compliqué. Mais est-ce que c'est ma priorité? Quand je vous le dis à vous, je me le dis à moi aussi. Hein. Il y a toujours quelque chose qui va faire qu'au dernier moment, ben, j'ai pas trop le temps parce que ceci, parce que cela. Et l'Éternel, pas l'Éternel, le malin a horreur d'une chose. Je vous le dis tout de suite. Paul et Sophie vont absolument pas me contredire. Le malin a horreur qu'un couple prie ensemble. Il fera tout pour détruire ces moments de prière. Tout. Il mettra tout en œuvre. Et c'est là où il faut apprendre à résister. Et quand on résiste, on devient des piliers dans l'Église. Des piliers de prière, des piliers d'intercession. Mais il faut résister. Est-ce qu'on est des adorateurs du dimanche? On doit se poser la question, est-ce que je suis un adorateur du dimanche? Ah oui, j'arrive le dimanche ici, je prie au milieu de l'assemblée, des très belles prières, et la semaine, dans mon quotidien, à chaque instant de la journée. Il m'est arrivé dans mon travail d'aller sur une situation où je disais simplement, ben, Seigneur, accompagne-moi. Vous voyez, c'est une prière qui dure 4 heures. Je me suis mis à genoux au milieu de la rue, j'ai dit, une prière de 4 heures. Mais non, tout en marchant, je dis, Seigneur, accompagne-moi. Et c'est bizarre parce que vous frappez, la porte s'ouvre, vous n'avez même pas parlé. l'Éternel a déjà agi. C'est pour vous dire que des fois, on se met des idées en tête, on a l'impression qu'il faut faire, faut jeûner, il faut faire plein de choses et tout, pour que l'Éternel nous écoute. C'est faux. Il faut simplement que nos sources, ce soit lui. Et que lui. Si vous allez demander à droite, à gauche, puis au dernier moment, vous dites, oh, ben c'est vrai, il y a Dieu. Mais combien d'entre nous l'ont déjà fait, ça? Vous savez, la petite roue de secours, l'Éternel. Et l'Éternel n'écoute pas. Et c'est incroyable parce qu'on a parlé d'anges ce matin, mais quand on pense que les anges dans le ciel adorent l'Éternel, sans cesse, et nous-mêmes, on va passer à cette adoration pour l'éternité. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant? Pourquoi pas adorer l'Éternel maintenant? Pourquoi pas chercher nos sources en lui? Le succès du berger David. David, c'est un, je vais employer le terme, un vulgaire berger. Vulgaire berger. Tout le monde s'est foutu de lui quand il a dit « Moi, j'irai contre ce Philistin ». Tout le monde a rigolé. Il avait 12 ans. Je ne vais pas dire sa hauteur, parce que la dernière fois, il y a Alain qui s'est foutu de moi. Il avait 12 ans quand il a dit « Moi, je combattrai ce Philistin ». Tout le monde a rigolé. On a mis l'armure de Saül. Il pouvait même plus. Et cette image d'armure de Saül, c'est exactement tout ce qu'on fait aujourd'hui. On met plein de choses sur nous. David a dit non. Il a tout viré. Il est allé au milieu du torrent. Il a baissé la tête pour chercher les pierres. Et quand il a relevé la tête, il allait à la victoire. Il a ramassé 5 pierres. Une seule a suffi. Ça veut dire qu'il y a des fois, il n'y a même pas besoin de multiplier les prières. Une seule suffit. Simplement parce que David avait confiance en l'Éternel. Parce que David savait que ses sources étaient l'Éternel. Une seule prière. Il a terrassé un gars qui faisait plus de 3 mètres de haut avec une seule pierre. Il n'y a eu aucune formation. On l'a nommé roi, il n'y a eu aucune formation. Il a tué ce Philistin, il n'avait aucune formation. Il est allé avec sa fronde. Sa fronde lui servait à écarter les loups, à écarter les bêtes sauvages. Il a dit, ben moi je vais aller avec ça. L'autre il était immense. Il avait une épée immense, il avait un bouclier immense. Lui il est allé avec sa petite fronde et son caillou. Avec sa petite prière. Il est allé devant le mal avec sa petite prière. Et il a tué le mal. Et il est devenu un magnifique roi d'Israël. Et pourtant, il avait un exemple triste, son père Saül. Mais il a toujours écouté de la voix de l'Éternel. Il n'a pas été comme la grenouille qui écoutait les autres et qui n'était pas arrivé en haut. Il a toujours écouté la voix de l'Éternel. Comment David a-t-il été formé? Il aurait pu dire « Toutes mes sources sont en l'Éternel ». David s'est exprimé et il a dévoilé ses sources. « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens ma cause. » Le psaume 9, versets 2 et 4. Pendant que David priait, pendant que David louait l'Éternel, qu'est-ce que vous croyez qui se passait? À votre avis? C'est l'Éternel qui combattait à sa place. C'est l'Éternel qui faisait périr les ennemis. Alors que David était à genoux en train de louer son Dieu. C'est pas formidable ça? C'est pas incroyable? Vous imaginez, vous êtes dans un coin d'une pièce, il y a des choses terribles qui risquent de vous arriver, vous, vous prenez un temps, un tout petit temps, pour louer votre Dieu. Et pendant que vous êtes en train de louer le Seigneur, lui s'occupe de ce qui vous dérange. Et de façon magistrale. Parce que vos sources sont l'Éternel. Parce que vous ne regardez pas vous, mais vous regardez l'Éternel. Vous avez la tête levée. Parce que le pire de tout, c'est quand on baisse la tête, on se voit. On voit notre tristesse. On voit nos malheurs. On en voit qu'on est le plus malheureux de la terre. Alors que si on lève la tête, c'est « Merci Seigneur, parce que je suis en toi. Parce que je puise en toi. » Quand vous relisez toute l'histoire de David, vous imaginez par quoi il est passé. Obligé de se sauver, il avait une armée à ses trousses. Saül, son père, qui voulait le tuer. Il a toujours été sauvé, toujours été protégé. Même l'Éternel lui a donné le moyen par deux fois de tuer Saül. Il a coupé une partie du manteau de Saül. C'est... Enfin, et c'est un psaume que j'ai lu, c'est écrit pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Quand on a des difficultés, quand on est dans le besoin, on court à droite, on court à gauche, on va chez le voisin, on va chez des amis, alors que l'Éternel attend simplement qu'on le loue et qu'on l'adore. Il dit « Je suis avec toi tous les jours ». L'ascension de Daniel, ah ce Daniel, vous avez tous lu ce livre, tous lu, captif du roi de Babylone, captif. Quel avenir il aurait pu avoir dans un pays étranger, si ce n'est que esclave. Mais Daniel a trouvé toutes ses sources en Dieu, toutes ses sources. Il est devenu premier ministre à Babylone, fantastique. C'est incroyable, hein? Et alors que le roi voulait en faire un esclave, il devient premier ministre. Il voulait, en fin de compte, que Daniel mange la même nourriture que lui. Et c'est ce qui a provoqué que Daniel s'est tourné vers l'Éternel. Il a levé la tête. Il n'a pas dit, oui, mais voilà, je vais regarder la nourriture. Je pense que ça ne va pas aller. Il a dit, voilà. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous, parce qu'il était nourri par l'Éternel. Parce que ses sources étaient l'Éternel, lui et ses amis. Il n'y avait rien d'autre. En Daniel, chapitre 1, verset 8, 9, 15 et 20. Toutes les sources étaient les mêmes. Ces trois amis avaient les mêmes sources. Ils ne quittaient pas l'Éternel des yeux. Il leur a accordé un plus beau visage, une meilleure santé que tous ceux qui mangeaient les mets du roi. Une meilleure intelligence et une meilleure situation aussi. Tout ce que l'Éternel veut nous donner aujourd'hui. Et Dieu est intervenu dans tous les domaines spirituels de la vie de David, de Daniel, pardon. Il avait une relation profonde avec l'Éternel, Daniel également. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, c'est-à-dire il se retira dans sa maison, les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Parce que le roi avait demandé d'adorer. Et tous ceux qui n'auraient pas adoré, voilà, ils seraient tués. Et Daniel y a dit, je vais adorer mon Dieu. Et il adorait son Dieu. La priorité, malgré toutes les charges qu'il avait, La priorité, c'était l'Éternel. C'était la priorité de sa vie. Quelles sont nos priorités ce matin? Il a tenu bon, Daniel. Il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Et j'aime cette image, c'est que le roi arrive. Daniel, Daniel. Parce qu'il pensait qu'il était mort. Et l'Éternel avait fait fermer la gueule du lion. Parce que les sources de Daniel étaient l'Éternel. Parce qu'il louait l'Éternel. Et là, on voit ici principalement la puissance de la louange, la puissance de l'adoration. Dieu avait vu le cœur de Daniel. Il savait que quoi qu'il arrive, il était prêt à mourir pour son Dieu. Et Dieu est intervenu. Et ça, c'est écrit pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. On doit vivre la communion avec Dieu dans la prière. On doit vivre la communion avec Dieu dans l'adoration. Chaque jour. C'est pas quand on a le temps. C'est pas quand on a un peu plus de temps. C'est quel que soit le temps. On passe du temps avec l'Éternel. On prie. La vie, elle est certainement pas facile. C'est pas moi qui vous apprends quelque chose ce matin. La vie dans ce monde n'est pas facile. L'ennemi est au quotidien à chaque coin de rue. Prêt à détruire les couples dans une église en premier, mais les individus séparément, il est prêt à les détruire. Alors qu'on a un Dieu riche en bonté, qui attend qu'une chose, c'est qu'on lui adresse la parole. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. C'est cette image magnifique d'aller puiser dans l'Éternel. Et si on va puiser dans l'Éternel, on relève la tête. Et quand on relève la tête, c'est un signe de victoire. La victoire sur toute chose dans notre vie, sur le pire des péchés, sur la pire des addictions, parce qu'on fixe les yeux sur Jésus-Christ. C'est important. C'est important. Vous avez des gens qui ont des addictions. Ils suivent un traitement. Dès qu'ils sont une journée ou même deux jours sans prendre leur traitement, bing patatra, ils retombent. Nous, l'Éternel, du jour au lendemain, peut enlever cette addiction. Demandez à José, il vous le dira. Du jour au lendemain. Simplement garder les yeux sur l'Éternel. Simplement puiser dans l'Éternel. On bricole tous les jours. Tous les jours, on bricole. On fait des petits trucs, voilà, on essaye. Donc, des trucs, quand je parle des petits trucs, c'est quelque chose de religieux, quoi. Et si Daniel avait fait ça, et si David avait fait ça, ils ont eu la victoire parce que constamment, ils puisaient leur source en l'Éternel. Vous voulez avoir la victoire ce matin? Puisez constamment dans l'Éternel. Constamment. Il ne faut pas s'arrêter non plus pendant la marche. Quoi qu'il arrive, si vous chutez, si vous tombez, l'Éternel vous relèvera pour aller plus loin. Le problème, c'est les gens qui s'arrêtent, qui se retournent. La femme de Lot, il lui est arrivé un seul tour. Elle s'est arrêtée, elle s'est retournée. Et dans nos vies, c'est exactement la même image. Combien d'entre nous se retournent sur leur passé? Et les doutes viennent. Est-ce que l'Éternel m'a réellement pardonné de ce péché? Est-ce que l'Éternel dit que je suis chrétien? On a oublié une chose, c'est que Jésus-Christ est monté à la croix pour que tout soit effacé. Est-ce qu'on a conscience de ça ce matin? Pour que tout soit effacé. Si on regarde à Jésus-Christ, si on puise nos sources en Jésus-Christ, tout est effacé. Ça ne sert à rien de s'arrêter et de se retourner. Si on s'arrête et qu'on se retourne, on ne verra plus rien. C'est le malin qui nous dit que l'ardoise n'est pas effacée. L'Éternel te dit ce matin, j'ai tout effacé. Avance. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on va être surpris quand on va puiser réellement l'Éternel, la façon toute simple qu'on va relever la tête et se retrouver constamment dans la joie. Parce que l'Éternel va effacer tous les doutes. Tous les doutes. Parce que la paix va être sur notre cœur. Peut-être une paix qu'on n'a jamais connue. C'est ce que l'Éternel veut faire avec certaines personnes dans cette assemblée. Il veut leur donner la paix. Parce qu'il y a de grands combats dans la vie de certaines personnes dans cette assemblée. L'Éternel te dit ce matin, viens au milieu de mon torrent, parce que je suis l'eau vive. Viens puiser et tu relèveras la tête. Amen. Merci Seigneur parce que